Bonsoir. Il était une fois dans un village de Chine un paysan qui était très pauvre. Il ne possédait rien, rien à part un cheval. Ce cheval était tellement beau que tout le monde voulait lui acheter. Mais Shang répondait invariablement « Non, on ne vend pas un ami ». Et puis un jour, ce cheval s'est sauvé. « C'est bien malin, lui a-t-on dit, t'aurais mieux fait de le vendre ». « Attendez !» répondait Shang. « Malheur, bonheur, qui sait ?» On pensait qu'il était fou. Et puis effectivement, un jour, son cheval est revenu avec 5 belles juments qui ont chacune donné naissance à un poulain. « Bravo !» dirent les villageois à Shang, « tu avais raison !» Mais voilà, le fils de Shang, en voulant dresser un poulain, est tombé et s'est cassé la jambe. « C'est bien malin, maintenant tu n'as plus ton garçon pour t'aider !»« Bonheur, malheur, qui sait ?» répondit encore Shang. Quelque temps plus tard, des soldats de l'empereur arrivèrent dans ce village. Ils enrôlaient tous les hommes valides pour la guerre et ne voulurent pas emmener le fils de Shang avec sa jambe cassée. Vous voyez, nul ne sait de quoi demain sera fait. Vos fils sont partis, le mien est là, dit Shang. Ce conte fait partie d'un recueil édité chez Rue du Monde, La Grande Chevauchée de Patrick Fishman et Bruno Pilorger. Si vous achetez ce livre, vous contribuerez avec l'éditeur et le Secours Populaire Français à offrir un livre à un enfant cet été. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site des Petits Bateaux.
Bonjour, je m'appelle Aglaé, j'ai 8 ans et je voudrais savoir pourquoi les animaux en captivité vivent plus longtemps que ceux en liberté. Merci de me répondre, au revoir.
Bonjour, je m'appelle Aglaé, j'ai 8 ans et je voudrais savoir pourquoi les animaux en captivité vivent moins longtemps que ceux qui vivent en liberté. Merci de me répondre, au revoir.
Bonsoir Aglaé. Brice Lefaux, vous êtes vétérinaire. Vous vous occupez d'animaux qui ne vivent pas en liberté puisque vous êtes le directeur du parc zoologique et botanique de Mulhouse. Alors Aglaé a recommencé deux fois sa question. Elle a cru s'être trompée. Ils vivent moins longtemps ou plus longtemps quand ils sont en captivité?
Eh ben, elle a tout à fait raison Aglaé.
Elle a raison quoi? La première fois ou la deuxième fois?
Elle a raison sur les deux.
Ah bon?
C'est-à-dire que ça va dépendre des espèces et surtout ça va dépendre de quelle période on parle. Parce que si on parle des parcs zoologiques des années 70 ou des années 80, effectivement, on connaissait pas très bien la biologie des animaux. On commençait à approfondir nos connaissances, notamment en termes de nutrition. Et les animaux qui pouvaient venir dans les parcs avant les années 1970 venaient de la nature. Donc c'était une acclimatation qu'il fallait réaliser. Et là, les animaux avaient du mal à survivre, il faut le dire. Aujourd'hui, on est 40 ans plus tard. 90% des animaux qui sont dans les parcs zoologiques sont nés de parents qui sont eux-mêmes nés dans les parcs zoologiques. Et la durée de vie des animaux, de la plupart des espèces, est supérieure à celle que l'on trouve dans le milieu naturel. Et la raison principale, c'est qu'en fait, dans le parc zoologique, on maîtrise à peu près toutes les menaces qui pèsent sur la survie d'un animal dans la nature.
C'est-à-dire la chasse, les prédateurs.
C'est-à-dire les prédateurs, pour un herbivore par exemple, la compétition alimentaire qui n'est pas anodine. Lorsque vous êtes, vous pouvez avoir d'autres espèces qui sont en compétition avec vous pour essayer de manger la même herbe, eh bien vous allez avoir moins à manger. Ça va être aussi l'abri. Lorsqu'il y a des intempéries ou des cyclones, etc., ils ne sont pas à l'abri, ils peuvent périr. Et puis enfin, c'est le fait de soigner les animaux. En parc zoologique, lorsque l'animal est malade, qu'il a attrapé une maladie ou qu'il a une maladie, un traumatisme comme une fracture ou quoi, on va le soigner.
Donc il est nourri, il est soigné, il est abrité et il n'a pas de prédateurs.
Et donc tout ça explique que la survie des animaux est supérieure en parc zoologique que dans le milieu naturel. Et en même temps, il y a des espèces que l'on ne connaît pas très bien. Je pense notamment aux espèces qui sont en voie de disparition aujourd'hui, qu'on connaît peu dans le milieu naturel, comme les petits amphibiens, où on essaye de les nourrir comme avec les amphibiens que l'on connaît, donc avec des petites mouches ou des choses comme ça. Et là, on ne maîtrise pas complètement encore les besoins alimentaires, donc on a encore des survies inférieures. J'ai un bel exemple pour montrer cette histoire de période entre avant, quand on ne connaissait pas bien, et puis après, à force de chercher, on a trouvé une solution, c'est les petits pandas roux. Les petits pandas roux, il y a encore une trentaine d'années, en parc zoologique, avaient du mal à dépasser les 10 ans. Dans le milieu naturel, c'est entre 15 et 20 ans.
Et il est comment le petit panda roux? Il est pas noir et blanc comme le gros qu'on connaît?
Non, c'est un cousin assez éloigné, il est plus proche du raton laveur, mais il mange aussi du bambou. Alors on l'a appelé panda roux. On l'a appelé dans les premiers temps le chat flamboyant, et lorsqu'on voit ce panda roux, il est magnifiquement flamboyant. Donc ce petit panda roux, il a fallu qu'on trouve une formule en fait avec une poudre de bambou qui apporte tous les nutriments et tous les petits aliments dont il a besoin pour grandir et surtout pour assurer correctement sa digestion. Et ça, ça a été trouvé que vers les années 90. Et à partir du moment où on a trouvé cette poudre de bambou, on a réussi à faire en sorte que les pandas roux vivent normalement jusqu'à 15-20 ans.
Pourquoi, Brice Lefaut, de la poudre de bambou et pas finalement des bambous ?
Parce que les bambous qui sont chez nous, il faut en donner énormément pour arriver à couvrir les besoins. Et ce n'est pas la même qualité que ceux qu'on trouve en milieu tropical, avec une variété de bambous que nous n'avons pas dans nos parcs zoologiques. Ah
ouais. Vous trouverez bien sûr le site du parc zoologique de Mulhouse sur celui des petits bateaux par franceinter.fr. Aujourd'hui, c'est la fête des pères. Le rôle des pères a beaucoup changé ces dernières années. Les pères ne portent pas de robe ni de jupe, ou s'ils voulaient le faire après tout, pourquoi pas. Mais en revanche, ils font beaucoup de choses que les pères de ma génération, par exemple, ignoraient complètement.
Bonjour, je m'appelle Alain, j'ai 6 ans et je voudrais savoir pourquoi avant les femmes n'avaient pas le droit de mettre des pantalons. Merci, au revoir.
Bonsoir, je n'ai pas compris ton prénom, mais j'ai compris ta question. Pourquoi, avant, les femmes n'avaient pas le droit de mettre des pantalons ? Nous avons proposé cette question à l'historien et écrivain Jean-Yves Le Naour. Est-ce vrai seulement ?
Eh bien, oui, en tout cas, dans la circonscription de Paris, il y a une ordonnance depuis 1800, c'est-à-dire on était sous le consulat, à la fin de la Révolution française, qui interdit aux femmes de porter le pantalon. Parce que le pantalon, eh bien, c'est le vêtement qui est caractéristique des hommes, et donc qui est caractéristique de l'autorité, qui est le symbole de l'autorité. D'ailleurs, il y a une expression qui dit « porter le pantalon ».
Hein. La culotte ?
Porter la culotte, porter le pantalon, effectivement, c'est détenir l'autorité dans le couple. Et c'est l'homme, bien sûr, qui doit détenir cette autorité, et la femme doit être soumise à l'homme. Et donc, les femmes ne doivent pas porter ce pantalon, parce que ça veut dire qu'elles seraient les égales des hommes. Donc, elles sont interdites, effectivement, de ce vêtement qui représente un peu, dans l'espace public, la différence sexuée et la soumission des femmes.
Donc c'est pas parce que c'est trop sexy, ça marque les jambes et tout ça ?
Non. D'ailleurs, à la fin du 19e siècle, il y a un assouplissement. On autorise les femmes à porter le pantalon. Alors un pantalon d'un genre un peu bouffant, pas tout à fait le pantalon des hommes, si elles font du vélo. Parce qu'évidemment, c'était difficile de faire du vélo avec une grande robe. Et si elle marche à pied, mais en tenant un vélo par le guidon. Et vous avez donc des féministes qui militent pour l'égalité, comme Hélène Brion, qui ne se déplacent qu'à vélo afin de porter constamment un pantalon et pour défier les hommes. Et puis, il y a eu aussi un grand événement qui a changé les choses, c'est la Première Guerre mondiale. Quand les femmes ont commencé à travailler massivement dans les usines de guerre, eh bien, la robe n'était pas toujours très pratique. Et donc, la robe a été délaissée pour la salopette. Et à partir des années 20, avec l'émancipation des femmes, on a vu de plus en plus de femmes porter le pantalon. Et cette loi, qui n'a jamais été abrogée, en fait, elle est tombée, cette ordonnance est tombée en désuétude, en quelque sorte. Néanmoins, dans la pratique, on n'aimait pas, par exemple, à l'école, que les petites filles, les collégiennes, les lycéennes, portent le pantalon. Jusqu'aux années 60, c'était interdit. Et aux années 70, ça s'est libéralisé. Et aujourd'hui, finalement, le problème est plutôt inversé. C'est-à-dire que on voit les jeunes filles porter le pantalon, mais porter la jupe devient quelque chose de plus difficile. C'est pour ça que les féministes ont institué une journée de la jupe.
Les ouvrages de l'historien et écrivain Jean-Yves Le Naour sont sur le site des Petits Bateaux.
Si tu disais on y va, si tu disais j'en ai tellement marre d'être ici, je t'écouterai, crois-moi, je n'hésiterai pas, que ce soit pour une ville ou pour un bled, un bout de terre paumée, crois-moi, ça ne me défriserait pas, je serais prête comme si j'avais. Si tu disais jusque-là, on s'est contenté de rien et ça va un peu, je t'approuverais, crois-moi. Je répondrais, c'est vrai, chaque pan de mur, chaque fissure. Je connais trop le dessin de cet endroit-là. Où si tu disais ça, je serais prête comme si j'attendais. Si tu disais que pour nous c'est le bon moment, je t'écouterai, crois-moi. Je suis prête depuis longtemps, mais tu ne dis rien de tout ça. Tu ne décides rien, je ne sais pas si tu as idée de ce qu'on pourrait faire. Je me demande pourquoi tu es là.
Tu disais, c'était Françoise Breut.
Les petits bateaux sur France Inter.
Vous connaissez le principe des petits bateaux. Des enfants posent des questions et nous, nous trouvons des spécialistes pour leur répondre. Des spécialistes dans tous les domaines.
Bonjour, je m'appelle Pierre, j'ai 7 ans. Je voudrais savoir pourquoi le sucre fond quand on le met dans un yaourt. Merci.
Bonjour, je m'appelle Ella, j'ai 9 ans et j'aimerais savoir pourquoi lorsqu'on met de l'œuf sur de la farine n'est pas mouillée. Merci, au revoir.
Pierre et Ella, nous avons soumis vos questions. D'ailleurs, je pense que c'est vous, Hervétis, qui avez choisi de les réunir, ces deux questions.
Oui, parce que je vois un bon lien. La première, pourquoi le sucre fond dans un yaourt, c'est une question très intelligente. Parce qu'elle nécessite de savoir plein de choses.
Hein.
Et la deuxième, c'est une super observation. On aurait pu la balayer d'un revers de main, et en fait, rien n'est évident. Alors, je vais commencer par la deuxième.
C'est-à-dire l'œuf qui ne mouille pas la farine.
Oui, pourquoi est-ce qu'on met de l'œuf, mettons du blanc d'œuf sur de la farine, on voit que ça roule dessus.
Oui, c'est vrai.
Alors, une chose à savoir, ça fait partie des informations, ça se trouve sur Internet, mais disons-le, c'est que le blanc d'œuf, c'est 90% d'eau et 10% de protéines.
Ah bon? Ouais. Il y a 90% d'eau dans le blanc d'œuf?
Oui, absolument. Et pour s'en convaincre, il faut pas me croire, parce qu'il faut jamais croire un maître. Il faut faire l'expérience de mettre un blanc d'œuf dans un bol. On le laisse une semaine, deux semaines, au bout d'un moment.
Bah, ça tombe bien, j'en ai oublié.
Voilà, très bien. Ouais. Il vous restera une feuille croquante et jaune. Et c'est pour ça que je dis aux enfants, est-ce qu'on ne devrait pas l'appeler jaune d'œuf, puisqu'il est jaune?
Oui, mais il est moins jaune que le jaune.
Non, mais le jaune, il est orange. Enfin bon. Donc vous mettez un blanc d'œuf et vous le pesez avant. Les ordres de grandeur, c'est important. Un œuf, c'est 60 grammes. Donc vous l'avez dans la main, 60 grammes. La moitié, c'est du blanc, 30 grammes. Et dans 30 grammes, il vous restera 3 grammes de feuilles croustillantes. Voilà. Et ça, c'est des protéines. Et si vous regardez bien, c'est à peu près pareil que des feuilles de gélatine, qui sont également des protéines.
Oui, oui, oui.
Voilà. Alors du coup, en gros, puisque le blanc d'œuf, c'est de l'eau, des protéines, mais qu'il n'y a pas beaucoup de protéines, on va dire que le blanc d'œuf, c'est comme de l'eau.
Ouais.
Bon. Et d'ailleurs, elle aurait pu demander, mais si on met une goutte d'eau sur la farine, eh ben, c'est vrai qu'elle roule et elle mouille pas la farine.
Ah bon?
Voilà. Faites un petit tas de farine, vous mettez une goutte d'eau, vous allez voir, ça va rouler sur le flanc.
Ah, oui. Je vais le faire tout à l'heure.
Oui. Alors maintenant, la question, c'est pourquoi? Alors, dans la vie, c'est facile de simplifier au moins au premier chef en disant, il y a des choses qui se dissolvent dans l'eau, par exemple le sucre, le sel, il y en a d'autres qui se dissolvent pas, c'est l'huile. Et ben, la farine, elle se comporte comme l'huile. Alors la question, c'est pourquoi finalement on peut faire de la pâte en mélangeant de l'eau et de la farine en tripatouillant fort? Et ben, la réponse, c'est la capillarité. La capillarité, c'est ce qui fait monter l'encre dans les poils du pinceau. Et en gros, si vous regardez un verre d'eau sur le bord du verre, vous allez voir que l'eau remonte parce qu'elle colle aux parois. Donc ça veut dire qu'il y a des forces entre les molécules d'eau et les molécules du verre.
Ah, oh, j'adore
voilà.
Ça.
Eh ben, c'est la même question, dans le fond, que celle de Pierre. Pourquoi le sucre fond dans un yaourt? Le sucre, lui, il se dissout dans l'eau. Or, le yaourt, c'est fait avec du lait qui a fermenté, mais le lait, c'est de l'eau pour une très grande partie. Et donc, c'est normal que le sucre se dissolve dans le yaourt, puisque le yaourt, c'est de l'eau qui a été solidifiée par les protéines qui ont pu être présentes. Donc, capillarité. Dans mon livre, j'ai proposé 14 commandements pour la cuisine. Alors, le premier, c'est le sel se dissout dans l'eau. Le deuxième, c'est le sel se dissout pas dans l'huile. L'huile se dissout pas dans l'eau. Ensuite, il y a la capillarité est importante. L'osmose, c'est une autre affaire. Les matériaux qui ont pas d'eau sont durs. C'est la croûte de la viande. Ceux qui ont de l'eau sont pas durs. Enfin, vous voyez, il y a 14 choses élémentaires comme ça avec laquelle on peut apprendre
et
à faire la cuisine.
Et le titre exact, c'est?
Ah, celui-là s'appelle Mon histoire de cuisine aux éditions Belin.
Depuis, Hervétis a également écrit Le terroir à toutes les sauces. C'est un roman philosophique avec des recettes et c'est édité à la Nuée Bleue. Si je vous demande comme ça, sans réfléchir tout de suite, de me citer un tableau du Louvre, Eh oui, vous allez dire la Joconde, nous sommes tous pareils. Pascal Torres est conservateur en chef au musée du Louvre et il est également écrivain et essayiste. Ses ouvrages, comme d'habitude, sont sur le site des Petits Bateaux par franceinter.fr.
Bonjour, je m'appelle Célesta, j'ai 7 ans et j'aimerais savoir pourquoi quand on regarde la Joconde d'un côté et puis de l'autre côté, elle nous regarde toujours. Merci, au revoir.
Ça paraît un petit peu magique, Pascal Torres.
Oui, ça paraît magique, parce que l'œuvre d'art est toujours magique. Et à Célesta, ce qu'on peut lui dire, c'est que lorsque tu es fixe, Célesta, et que tu regardes ta maman ou ton papa qui va de droite à gauche dans l'appartement et que te regarde, c'est-à-dire que vous êtes les yeux se suivent toujours. C'est ce qui se passe avec la Joconde, et c'est ce qui est extraordinaire, parce que Léonard de Vinci est l'inventeur de cette illusion d'optique, de cette illusion, de cette, je dirais, philosophie, cette pensée incroyable, révolutionnaire à son époque, qui est que l'on peut imiter la réalité parfaitement. Et voilà ce qui se passe, c'est-à-dire que lorsque tu mets tes yeux dans ceux de la Joconde te regarde. Et c'est important parce que tu vois, tu dis regarder. Regarder, ce n'est pas les yeux, le regard c'est autre chose. Le regard est une sorte d'énergie, une sorte de tension qui passe de l'un à l'autre. Et pour que tu regardes, que quelqu'un te regarde, il faut qu'un objet te regarde. L'objet aussi peut te regarder. C'est-à-dire que le regard se pose et c'est comme un miroir qui te renvoie à la chose. Voilà ce qu'est la Joconde, voilà ce qu'est une boîte de conserve sur la mer, dirait Jacques Lacan par exemple. L'objet te regarde, tu vois. Parce que si l'objet ne te regarde pas, l'autre n'est pas là, il n'y a pas de regard. Il y a simplement un effleurement de quelque chose qui n'est pas de l'art et qui n'est pas la vie. La vie, c'est justement une réflexion, pas une tension seulement, mais quelque chose qui se met en harmonie d'un côté comme de l'autre. Voilà ce que c'est que l'art de Léonard de Vinci. Voilà pourquoi la Joconde toujours te regardera et regardera les générations à venir.
Et voilà, Jungle, c'était Happy Man. Nous avons tous un tas de croyances, la plupart du temps héritées de nos parents, dans plein de domaines. Pour arrêter le hockey, pour se soigner, pour élever les enfants et des choses encore bien plus importantes.
Bonjour, je m'appelle Juliette et je voudrais savoir comment se fait-il qu'il y ait des gens qui croient en Dieu en regardant toutes les catastrophes naturelles et les guerres qui se passent dans le monde. Au revoir.
Merci Juliette pour cette belle et grande question que nous proposons à, on dit un ou une rabbin, Delphine Horviller.
On peut dire les deux, on dit plutôt un rabbin, mais on finira par dire une rabbine.
Enfin bref, vous êtes rabbin et vous êtes écrivain également, puisque vous avez écrit avec Rachid Benzine « Des mille et une façons d'être juif aux musulmans » et c'est édité au Seuil. Alors que répondez-vous à Juliette? Pas facile.
Non Juliette, c'est une question pas simple. Cette question en fait c'est la question qui obsède tous les théologiens, ou presque, tous ceux qui dans différentes traditions religieuses essaient de penser la place du divin, la place de Dieu et sa manifestation dans le monde. C'est une question qui est essentielle et qui est dérangeante et qui pourrait être énoncée plus simplement comme ça. Si Dieu existe ou est présent dans notre monde, comment expliquer ce qui ressemble fort à son absence, ou en tout cas à une présence très très discrète de Dieu dans le monde? A priori, il nous parle pas tous les jours, c'est difficile de le contacter, de lui envoyer un email, d'obtenir une preuve indubitable de sa présence dans le monde. Pour le dire encore plus simplement, comment expliquer que des choses terribles arrivent parfois à des gens bien, ou que parfois la chance sourit à des sales types? Cette question, elle porte un nom savant en théologie, ça s'appelle la question de la théodicée. Comment Dieu manifeste-t-il sa présence dans nos existences? À cette question, en fait, personne ne répond de la même manière, même au sein d'une même tradition religieuse. Certains penseurs, au sein de traditions monothéistes, affirme, souvent en utilisant un célèbre verset, « Les voies du Seigneur sont impénétrables », traduction, on serait trop petit, trop limité dans notre vision pour comprendre le plan plus global de nos existences, pour percevoir comme un projet divin plus large dont l'envergure nous échappe et notre regard sur la place de Dieu dans le monde serait faussé ou limité. Alors, libre à vous, libre à toi d'accepter ou pas cette perspective, de la trouver rassurante ou au contraire de la trouver dérangeante. Mais il y a d'autres penseurs qui refusent cet argument et qui mettent au contraire en avant l'idée d'un Dieu qui volontairement n'interviendrait pas dans l'histoire. Ça peut paraître étrange, mais c'est par exemple l'idée qu'on trouve dans la tradition mystique juive. Dieu crée le monde et il s'en retire, il effectue comme une éclipse volontaire pour laisser à l'homme toute sa responsabilité. Comme s'il disait à l'homme, dorénavant, je n'interviens plus. Dorénavant, ta liberté véritable dépend de mon retrait de l'histoire. Et c'est par ce retrait que l'homme va acquérir une capacité d'agir dans le monde, de ne pas s'en remettre à une intervention du divin.
Alors, est-ce que c'est utile, Delphine Horviller, de chercher une responsabilité de Dieu quand la vie se passe pas comme on voudrait?
Si on croit cette théorie, il sert à rien de rechercher un sens ou une volonté divine cachée derrière les malheurs qui nous arrivent. Il faut toujours nous demander comment, humainement, on va y répondre. Quelle est notre liberté, notre responsabilité, notre capacité d'agir face à ce que la vie nous réserve? Ça revient à demander, face aux épreuves de l'existence, non pas où était Dieu, pourquoi n'était-il pas là, mais où était l'homme, où était l'humanité quand il s'est passé telle ou telle chose dans ma vie? Et enfin, face au drame de l'existence, il y a tout simplement des gens qui doutent et qui dénoncent. Des hommes dont la religion et la vie spirituelle acceptent le doute. Les certitudes dans la pensée religieuse, elles sont parfois confortables et rassurantes, mais il arrive aussi que nos traditions puissent accepter le doute et même l'encourager, et même nous dire qu'on grandit grâce à ce doute. Comment est-ce qu'on fait pour vivre avec le doute? Alors ça, c'est une autre question.
Vous pouvez podcaster cette émission. Nous vous retrouverons dimanche prochain à partir de 19h30. Nous, c'est Pierre-Yves de Rolin et Jean-Baptiste Audibert, Marjorie de Voucou, Eliane Gérard et Noël Bréham. Et pour l'heure, je vous laisse avec Denis Chessou pour la Tulle du Monde, petit loup.